Débat et controverse sur BFM Business.
Les experts de l'IA. Anthony Morel.
Allez, les experts de l'IA, c'est reparti. La deuxième partie. On continue notre émission spéciale ici depuis VivaTech, le plus grand salon européen dédié à l'innovation, à la technologie, avec des robots partout autour de nous. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de cette prochaine peut-être révolution industrielle, la révolution robotique, avec nos trois intervenants: Stéphane Bobo, fondateur d'Innovate, Olivier Stas, chercheur en robotique au CNRS, Marine Protet, journaliste à la Tribune. On va continuer. Alors, on a fait un état des lieux, on a bien expliqué où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'avancée technologique robotique. Maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse un peu à la façon dont ça va transformer nos vies. Très concrètement, ces robots, déjà dans nos vies professionnelles, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des robots industriels, bon, ça fait des décennies évidemment, mais les robots humanoïdes, multitâches, dont on a parlé dans la première partie, qui ont l'air absolument incroyables, est-ce qu'ils sont déjà utilisés dans certaines industries, dans certains secteurs d'activité? Qu'est-ce qu'ils font très concrètement au-delà de faire du kung-fu sur les salons?
Alors, pour tout vous dire, depuis un an, on a reçu plus de 400 leads commerciaux, de la PME jusqu'au grand groupe du CAC 40. Donc ça intéresse tout le monde, toutes les entreprises, tous les secteurs. Vraiment, il n'y a pas de secteur particulier, même si l'automobile est très en demande parce qu'ils ont une pression très forte sur ces sujets-là. Donc il y a une attente d'avoir ces robots. Les premiers marchés sur lesquels on imagine pouvoir démarrer des proof of concept, des démonstrations en usine, principalement dans des secteurs logistiques dans lesquels on va manipuler, déplacer des paquets, dépalettiser, ce genre de choses. Donc des fonctions vraiment très répétitives sur du colis. Et puis on a les tâches répétitives en usine, donc la manipulation sur une machine. Donc tout ça, ce sont vraiment les premiers métiers sur lesquels il y a de la pénurie, il y a de la pénibilité d'emploi. Et donc c'est les sujets qui nous intéressent dans les premières années, et on pense que les premiers déploiements commenceront en 2028.
2028 ? Olivier, c'est à peu près le timing que vous avez en tête. Vous, vos robots, par exemple, on en est encore en phase de recherche et développement. Est-ce qu'il y a déjà des tests en usine? Parce que j'ai l'impression que ces tests dans les usines, dans les entrepôts, on les voit déjà depuis des années, mais finalement, ça n'a pas l'air de se matérialiser ou de se généraliser.
Alors, on travaille avec pas mal d'entreprises. Notamment, on a eu un laboratoire joint avec Airbus, où ils ont des cas très concrets, par exemple sur du perçage. Alors le perçage, c'est tellement difficile, il faut appliquer 60 kg de pression pour la déformation, donc ils ont besoin de robots très spécifiques qu'ils ont déployés récemment et pour lesquels les robots humanoïdes ne sont pas du tout adaptés. Et donc nous, on s'est attaqué à un autre problème qui s'appelle l'ébaviorage. Donc une fois que vous avez fait le perçage, il reste des petits copeaux de métal. Donc l'ébaviorage, c'est l'opération où vous venez avec une sorte de perceuse qui est un embout très spécifique, revenir enlever ces copeaux de métal. On a mis 10 ans, deux projets européens, à avoir maintenant une démonstration où un robot fait ça de façon quasiment autonome en utilisant des techniques d'intelligence artificielle du classique pour réussir à faire ça sur une preuve de concept de façon répétable et dans des mesures qui nous sembleraient acceptables pour des industriels. Donc il y a quand même un chemin non négligeable, et c'est là où j'insiste, c'est qu'une fois que la hype sera passée, l'engouement, c'est des choses où c'est possible. Mais il ne faut pas sous-évaluer les problèmes et le niveau d'investissement qu'il va falloir continuer à arriver pour arriver à la fin à faire une véritable innovation qui va durer dans le temps.
Mais j'ai l'impression qu'on nous en parle depuis des années, qu'on ne les voit pas forcément arriver. Alors peut-être parce qu'on a un prisme franco-français aussi. Je lisais qu'en Corée du Sud, on était le premier pays, enfin la Corée du Sud est le premier pays à avoir atteint les 10% de main-d'œuvre robotique. C'est-à-dire qu'ils ont un robot pour 10 salariés, quoi, en gros humains. Et que les robots commencent à s'inviter dans la livraison de colis, dans les serveurs de restaurants. Alors, ce n'est pas forcément des humanoïdes à chaque fois, mais en tout cas, ils commencent à s'installer dans la vie quotidienne tout autour de nous. En France, on ne voit pas ça encore. C'est ce qui va nous arriver à un moment. On a pris un coup de retard là-dessus, Olivier?
Énorme.
Marine.
Pardon.
Marine et Olivier.
En Chine aussi, je crois que les robots d'Unitri sont déjà en vente, donc on en voit quelques-uns dans la rue, effectivement, dans les événements. Moins en France, mais il y a aussi une question de coût, puis aussi une question d'entreprise qui décale sans cesse leur commercialisation. Je pense à Tesla, par exemple, qui avait annoncé des dates, puis qui chaque année décale la commercialisation d'Optimus, voilà, son robot humanoïde. Et les coûts, même s'ils ont énormément baissé, je crois qu'il y a des analystes qui disent qu'en un an, le coût des robots ont chuté de 40%. mais voilà, qui représente malgré tout un investissement important.
Olivier, vous disiez retard énorme ?
Énorme. Alors, très rapidement, la Chine, à l'heure actuelle, depuis 2023, à elle seule, achète plus de robots industriels que le reste du monde. Ils ont, depuis 10 ans, avant les robots humanoïdes, ils avaient vu qu'ils allaient perdre en productivité parce qu'il y avait une montée du niveau de vie de leurs ouvriers. Donc, ils ont décidé d'aider toute leur industrie à designer des produits qui soient faits par des robots industriels. Et c'est pour ça qu'on voit des acteurs comme BYD, qu'on a un niveau de production, on est saturé par la Chine. C'est qu'ils ont orienté toute leur industrie à utiliser des robots. On voit des DAC Factory qui vont au-delà des robots humanoïdes. Maintenant, sur les robots humanoïdes spécifiquement, nous, on développe des technologies qui sont utilisées pour la robotique complète. Ça peut être utilisé, par exemple, on a dit, pour des robots à roues, parce que quand vous avez un robot à roues qui manipule des poids, vous avez encore des problèmes d'équilibre. Ouais. Voilà. Et par exemple, les techniques que nous, on a développées ont été utilisées par des tractopelles qui, quand ils creusent, doivent maintenir leur équilibre. Et donc, ce qu'on développe, c'est fait. La première fois que je suis allé dans des salons chinois, c'était les entreprises chinoises qui me remerciaient du logiciel qu'on avait fait, qu'on avait mis en open source. Malheureusement, pas exploité par les entreprises européennes, à mon grand désarroi. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas de problème pour travailler avec des entreprises européennes s'ils veulent prendre le risque de développer de l'innovation comme Wondercraft.
Je me tourne vers Stéphane, parce que vous, pour le coup, la Chine, vous y allez assez souvent. Et vous faites ce pont, finalement, entre la robotique chinoise et l'intelligence artificielle en France. C'est ce que vous constatez là-bas, c'est-à-dire que les robots, ça fait partie de la vie quotidienne, finalement, beaucoup plus que ce qu'on a ici. C'est un truc normal là-bas.
Alors déjà, ils sont beaucoup moins apeurés que nous, Européens, face à ces machines. Ils trouvent ça très, très sympathique. Il y a plus de 150 fabricants de robots humanoïdes qui sont lancés en Chine en moins de 5 ans. Lorsqu'on en a à peine une dizaine en Europe ou aux États-Unis, pour montrer l'écart. Donc, il y a une vraie volonté de la Chine, parce qu'ils sont face aussi à une crise démographique. Donc, ils anticipent aussi un besoin de ressources dans les usines, dans plein de métiers en fait différents, parce que la Chine est face à une vraie crise démographique. Donc, il y a un vrai enjeu. Et donc, aujourd'hui, ils y vont complètement, et ils y vont très tôt en démarrant par l'éducation. Il faut savoir que la Chine a annoncé très récemment qu'il y aurait des cours de robotique et d'IA dès l'âge de 6 ans.
Ouais, c'est ça.
Dans les universités en Chine, les étudiants travaillent directement avec les mêmes équipements que ce qu'on a dans des usines chez BYD. Les mêmes bras robotisés. Moi, j'ai visité les deux dans la journée. J'avais les mêmes équipements dans l'université que dans l'usine.
C'est complètement intégré au système, en fait.
Exactement. Il y a des ingénieurs de ces grands groupes qui viennent discuter sur des problématiques techniques avec les étudiants, avec les professeurs, qui leur donnent des sujets. Donc ces étudiants, quand ils ont fini leurs études, ils sont directement opérationnels. Ils connaissent toutes les problématiques, ils ont les mêmes technologies et ils sont directement opérationnels. Donc il y a une vitesse entre le service public, le service privé chez eux, qui fonctionne parfaitement. C'est là où nous, on a encore des grandes difficultés. Lorsque Olivier parlait justement des entreprises françaises à embrasser ces innovations de la recherche ici, ça pas du tout. On n'a pas cette culture aujourd'hui.
Racontez-nous un peu, parce que je sais que vous allez souvent dans un endroit qu'on appelle la Robot Valley.
Nanshan Robot Valley.
Là, comment vous dites ?
C'est à Nanshan. C'est un district de Shenzhen. C'est une sorte de Silicon Valley autour de des robots. Il y a énormément d'entreprises qui se sont fondées là. Et surtout, vous avez tout l'écosystème. C'est-à-dire que vous avez besoin de modifier un moteur, vous avez le sous-traitant qui arrive dans la demi-journée. Et donc, tous les sous-traitants sont à côté. C'est pour ça qu'ils ont une expression où on parle du Shenzhen Speed, mais il y a aussi Step Down, Step Up, où en fait, vous avez des sous-traitants qui sont à l'étage du dessus ou à l'étage du dessous.
Ouais.
Donc tout est proche, tout est rapide. Un prototype peut être fabriqué en 18 heures.
J'ai vu des écoles de formation pour robots. Alors je ne sais pas si c'est à cet endroit-là en particulier, mais où on entraîne, les vidéos sont incroyables, où on voit des robots à la chaîne qui réalisent des tâches en continu, qui sont dans une sorte d'école ou de centre de formation. Vous avez vu ça, vous, c'est là-bas?
Oui, tout à fait. Alors on a, il faut savoir que pas très loin de Shenzhen, il va y avoir un espace d'entraînement de robots dès 2027 à ciel ouvert de 100 000 robots. Donc la ville a décidé de déployer, pour créer de la data, pour créer du retour d'expérience, de déployer 100 000 robots à ciel ouvert dans plein de métiers différents pour récupérer de la data. Donc ils se donnent les moyens, justement quand nous on essaie de travailler avec de la vidéo, eux ils les mettent en situation pour récupérer ces informations-là.
Bon, Marine, il faut aller faire un reportage dans la Robo Ballet, là, ça a l'air complètement fou, non ?
Oui, carrément, oui.
Et Olivier, ça vous inspire, ça, quand vous êtes dans l'environnement de recherche français, pour le coup, quand on voit les moyens qui sont déployés en Chine avec cette Robo Ballet, est-ce qu'on a quelque chose, un embryon de quelque chose de similaire, ou on est complètement à des années-lumière de tout ça en France ?
Disons que je trouve qu'il y a certains excès. Voilà, il y a des modes d'investissement sur des choses qui me paraissent pas très très bien définies. On a beaucoup de projets, des gens qui viennent nous voir avec des ROI industriels que je comprends pas. On a des industriels qui font des choses extrêmement intéressantes, mais on a par exemple des belles pépites comme Wondercraft qui fait un travail fantastique avec Renault, qui a eu, je dirais, c'est un parcours vraiment quasi vraiment bien. Ils ont été chercher les, comment ça s'appelle, les compétences au niveau des laboratoires. Ils ont pas eu peur de prendre des risques. Quand ils se sont rendus compte que certaines approches ne fonctionnaient pas, ils se sont rabattis sur d'autres.
Donc, je rappelle que Wondercraft, à la base, ils faisaient des exosquelettes pour les personnes lourdement handicapées, et ils se sont diversifiés vers les robots humanoïdes, et qu'aujourd'hui, leurs robots travaillent, entre guillemets, dans les usines de Renault, pour de vrai.
Tout à fait. Et sachant qu'ils ont utilisé des algorithmes que nous avons développés dans notre laboratoire, qui étaient à la fois pour les robots humanoïdes, pour les problèmes d'équilibre sur les exosquelettes, qui encore une fois, s'appliquent. Et on leur a fourni, certains de nos étudiants maintenant travaillent chez Wondercraft, et je pense que c'est une grande fierté. Donc du coup, moi j'aimerais un petit peu plus de prise de risque de la part de nos industriels, sans forcément, on fait des choix aussi, hein, parce que le choix de faire, d'investir autant sur les robots humanoïdes, on a une présentation en 2024 d'un professeur chinois qui nous a dit textuellement, Elon Musk est un visionnaire en business, il a décidé de faire des robots humanoïdes, on fait pareil. Ouais. J'espère que nos industriels ont un peu plus de vision que ça, je le crois vraiment avec Wondercraft et avec certains autres acteurs qu'il faudrait pousser et aider.
Voilà. Je rappelle, alors la transition avec Elon Musk est intéressante parce qu'il a quand même dit, Elon Musk, qu'à terme, alors après c'est Elon Musk, il y a un côté VRP, il dit beaucoup de choses, mais il délivre aussi en partie, au moins en partie. Et il a dit qu'à terme, il voulait produire plus de robots Optimus que de voitures Tesla. Sa vision, c'est ça, à long terme. Est-ce que ça veut dire que demain, on aura tous un robot avec nous ? Est-ce qu'on aura des millions de robots dans les usines ? C'est comme ça qu'on peut imaginer l'avenir, Stéphane ?
Les études de marché, entre autres de Morgan Stanley, qui parlent d'un horizon à 2050 où il y aura 1 milliard de robots sur Terre, soit un robot pour 10 habitants. Donc, c'est un peu les projections prospectives qui sont faites par les analystes aujourd'hui. De manière plus court terme, à horizon 2035, on parle d'un marché de 38 milliards en fourchette basse et à plus de 150 milliards dans moins de 10 ans. Et ces études-là ont été déjà revues 6 fois à la hausse en un an. Donc, on voit que c'est en train de s'accélérer. Mais est-ce que... un des sujets pour nous qui est important, c'est de savoir sur quoi, en France, on est fort. Est-ce qu'on doit tout réinventer en France ? Moi, j'ai vu l'évolution de la Chine en 20 ans, de passer d'un métier de sous-traitant industriel à un cœur du réacteur de l'innovation mondiale aujourd'hui. Ils ont une capacité sur le hardware qui est colossale avec tout cet écosystème, cette supply chain. Est-ce qu'on doit, nous, concentrer nos efforts à être capable uniquement de refabriquer des choses qui sont parfaitement exécutées en Chine, ou au contraire, de se dire, est-ce qu'on peut essayer de coopérer ? Est-ce qu'on peut essayer de mettre nos propres logiciels sur ces machines et pas forcément avoir la position américaine d'un rapport de force brutal avec la Chine ?
Oui, mais sauf que ça, peut-être aujourd'hui, mais on le voit bien avec l'histoire d'Anthropic. Je fais un pas de côté, mais ce qu'on a appris cette semaine avec les Américains qui, à un moment, disent « Ah ben non !» Les derniers modèles d'Anthropic, ils sont trop puissants, ils sont trop dangereux, il faut que les non-américains n'y aient pas accès. Il y a un énorme sujet de souveraineté technologique. Il existe aussi pour les robots, ce sujet. Si demain, les États-Unis ou la Chine disent « Bah non, bah les gars, nous, les robots, on les garde pour nous » ou « Certaines fonctionnalités, vous n'y aurez pas accès », c'est un énorme sujet, hein, Marine.
Oui, c'est un gros sujet. Oui, effectivement, on peut imaginer si du jour au lendemain, ils décident de couper un modèle d'IA qui sert en robotique, comment on se retrouve. Mais il y a des entreprises qui essayent de développer des visions un peu différentes. Je pense à Hugging Face, qui est une start-up franco-américaine, pas totalement française, mais qui a, je trouve, une vision de la robotique intéressante parce que eux, en gros, ils disent on veut pas d'un futur où il y aura que des robots propriétaires qui sont ceux d'Unitri, ceux de Tesla, ceux du Figure AI. Il faut essayer d'avoir que chacun puisse s'emparer de la robotique et puisse être capable de développer des modèles de robotique pour les programmer soi-même. Et donc, ils ont mis en vente un petit robot qui n'est pas un humanoïde, mais qui est un robot de bureau à, je crois, autour de $300, qui permet à chacun de se développer dans l'idée que ce soit avec des... Voilà, qu'il est en open source, ça veut dire que chacun peut y accéder et le modifier, etc. Donc je pense que c'est peut-être vers ce genre de modèle-là qu'il faut aller. Et puis au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on ne maîtrisera peut-être pas toute la chaîne, mais en tout cas, il y a certains points de la chaîne robotique sur lesquels on peut aller. Donc c'est ce que fait Emmy Labs sur les world models. Peut-être que si on est bien présent sur la couche logicielle, ça nous donne un effet de levier et on est moins dépendant des autres pays.
Olivier, je sais que ce sujet de la souveraineté, il vous est cher. Est-ce qu'on peut être présent à tous les échelons de la chaîne de valeur, ou est-ce qu'il faut, comme le dit Stéphane, faire des choix d'une certaine manière?
Alors, au niveau industriel, je pense que Stéphane est beaucoup plus compétent que moi pour vous répondre. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Marine. Hugging Face, on a nos anciens Tesar qui est allé chez Hugging Face et qui a fait un prototype de robot bipède à 2 500 € avec la collaboration de Hugging Face. Donc, il y a une porosité entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie qui fait que, oui, à l'heure actuelle, à cause de cette accélération, nous avons les capacités en France et en Europe de pouvoir innover. Ensuite, à quelle échelle on veut le déployer? Je pense qu'il y a un choix collectif à faire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant, social? Ça, voilà, je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Mais on peut le faire. Et nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est... Marine parlait d'être autonome. Je pense que nous, c'est là-dessus vraiment qu'on axe. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi avec la comparaison avec l'être humain. Vous ne vous branchez pas sur un cluster quand vous apprenez à faire du sport. D'accord ? Tout est embarqué quand on s'appelle dans l'être humain avec une faible énergie. Et donc, du coup, il y a énormément de recherches encore à faire là-dessus sur utiliser des nouveaux composants. Et on a tout un écosystème très pertinent pour aller dans ces directions-là.
Ces robots, donc, ils vont s'inviter de plus en plus dans nos vies professionnelles. On le voyait, et c'est vrai que l'exemple que donnait Marine sur ce concours dans l'entrepôt entre le robot et l'humain, en réalité, l'humain a gagné, mais en fait, c'est le robot qui a gagné d'une certaine manière, parce que l'humain, il a été obligé de bosser 24 heures. En temps normal, il ne le ferait jamais. Donc, on se dit que la bataille, d'une certaine manière, est déjà perdue. Est-ce que dans nos vies personnelles, on va aussi avoir des robots qui vont s'inviter? On parle beaucoup du robot majordome. Moi, ça fait des années que j'en entends parler sur les grands salons technologiques, qu'on voit des démonstrations plus ou moins spectaculaires. Optimus, ça fait partie des objectifs aussi de Tesla. C'est quelque chose de réaliste, cette idée d'un robot qui pourrait réaliser toutes les tâches, toutes les corvées à ma place dans quelques années?
En tout cas, c'est un rêve, c'est un fantasme qu'on a tous. Et à chaque fois qu'on voit ces vidéos, on se dit « ça y est, il est là ». Mais non, il n'est pas encore là. Donc, on ne le voit pas avant 10 ans. Hein, et quand on dit 10 ans, parce que c'est qu'on n'a pas une date très précise, mais on ne le voit pas pour tout de suite, ça c'est sûr. On sait qu'il y a encore énormément de travail et les world models est une des clés potentielles pour y arriver. Parce qu'on sait qu'on n'a pas aujourd'hui toute la data, toute la connaissance pour que le robot comprenne le monde, comprenne la physique, s'adapte à des environnements complètement disparates d'une maison à une autre. Donc on en est encore très 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 loin. Mais c'est un rêve qu'on
touche tous mes espoirs là. Moi j'avais l'impression en voyant toutes les vidéos qu'on voit sur internet depuis quelques mois et même quelques années que ça y est, on y était. Genre les robots de Figure AI, vous les avez vus aussi Marie.
Alors par contre, il faut la maison qui va avec quoi, parce que il faut l'endroit pour le stocker.
C'est aussi ça, c'est vrai. Mais elles sont très spectaculaires. On y voit alors, pour ceux qui nous écoutent hein, mais on a vraiment des humanoïdes qui la dernière c'était ils faisaient un lit. Donc ils sont deux et puis ils se mettent à faire un lit je parle sous
le
contrôle.
Des œufs alors que c'est quelque chose effectivement.
C'est ça. Mais la grande difficulté c'est quand même de s'adapter à toute la disparité, la différence d'environnement. Parce que l'entraîner dans un endroit très spécifique où on lui a donné énormément de data sur cet endroit-là, ça n'a rien à voir. Chez vous, chez moi, ainsi de suite, on a des environnements qui sont très, très, très différents.
Donc ces vidéos, elles sont truquées, Olivier? C'est trop beau pour être vrai?
Alors, pour une fois, je vais être positif. Je veux dire, non, moi, je trouve ça spectaculaire parce que c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire il y a 2-3 ans. On est à l'heure actuelle capable, dans certains cas pas très compliqués, d'avoir un robot qui acquiert de la data et qui est capable de faire quelque chose d'intelligent. Et j'ai des collègues qui le font avec des petites équipes, 2-3 personnes. Donc ça, c'est super. Vraiment, là, il y a vraiment un gain. Et je trouve qu'il y a plein d'industriels qui prennent le risque de le faire et qui sont en train de regarder si ça tient sur le long terme. Et là, il y a des vraies questions pour lesquelles on n'a pas de recul. C'est est-ce que le robot, il va tenir suffisamment longtemps? Et là, je pense qu'il y a un point intéressant. Hein, c'est qu'on parlait là des 24 heures. Mais le robot, quand il est déployé sur une usine, c'est pas des investissements sur un jour, une semaine. C'est sur plusieurs années. Et il y a beaucoup de robots qui ne tiennent pas plusieurs années. D'accord? Pour vous donner un exemple, sur des chaînes d'assemblage, on avait des robots qui tombaient en panne toutes les 6 heures.
Toutes les 6 heures?
Ça passe pas.
Ah oui? C'est une longévité limitée là, oui, effectivement.
Voilà. Et ça, sur ça, c'est, je pense que c'est Stéphane, voilà, qui avec plein de, quand ça s'appelle données industrielles, et nous on fait la même chose. Nous on teste, on a un robot unitriche chez nous, et tous les jours on fait des démonstrations. Il s'en prend plein la tête, et je suis impressionné de vous dire qu'après un an, c'est un des robots que j'ai eu qui tient le plus. Là-dedans.
Et alors que c'est pas les plus chers, parce que alors on parlait de ROI, parce que c'est important évidemment de savoir combien vont coûter ces robots, que ce soit en robot majordome, mais aussi dans les usines. Ça coûte combien aujourd'hui un robot Unitri?
Alors il y a des prix d'appel. Vous pouvez même les trouver sur AliExpress.
Ah, on peut en acheter sur AliExpress. Genre,
oui,
je peux commander par exemple un robot Unitri.
C'est plutôt en teasing, on va dire, parce que la réalité c'est que c'est plutôt pour montrer que ils commencent à être très abordables. Le petit R1 qui est la toute nouvelle génération de Unitri, qui a un robot de développement entrée de gamme, hein, on est à moins de 9000 euros par exemple. Et le robot qu'on imagine demain parfaitement programmable avec des mains, parce qu'il y a le coût des mains qui dépend énormément, hein. Un robot c'est un Lego, donc on peut lui rajouter plein d'accessoires, donc différents types de mains, mais en moyenne aujourd'hui on est sur à peu près 40 000 euros.
40 000 euros, ok. Bah, sachant qu'on imagine qu'il y aura des économies d'échelle, qu'à un moment, ça va baisser, se démocratiser.
Que des casques, des réalités virtuelles peuvent coûter 6 000 euros, par exemple. Donc, ça c'est pas, les prix sont pas si. Enfin, bon, évidemment.
C'est un bon élément de comparaison.
C'est inabordable pour les 90% des gens. Mais,
oui, mais pour l'entreprise, on peut commencer à envisager des ROI, justement, sur 3 ans, avec des systèmes de leasing. Voilà. Enfin, je veux dire, à ces prix-là, et on pense que quand même dans le temps la technologie va évoluer, les prix vont baisser, mais le 30-40 000 euros me semble être un prix réaliste dans le temps avec l'évolution technologique.
Si on se projette un petit peu, voilà, on est dans un monde, alors peut-être dans 10 ans, où les robots seront capables de réaliser toutes nos corvées de manière totalement autonome, où ils seront capables de réaliser potentiellement n'importe quelle tâche mieux qu'un être humain. On fait quoi, nous, les humains? On va sortir de la technologie pure et aller peut-être vers des sujets presque philosophiques, mais ce sera quoi le sens de notre vie? C'est Elon Musk, hein, aussi, qui a toujours une vision un peu civilisationnelle des choses, qui dit, voilà, il va falloir qu'on repense la place de l'être humain, finalement, notre place dans la société et le sens de notre vie à l'aune de ces nouvelles technologies. C'est un sujet qui vous intéresse aussi, Olivier? Vous y réfléchissez à ça?
On y est très attentif, parce que c'est quelque chose que, comme on est scientifique, souvent on nous pose cette question-là. Et donc, du coup, moi, je donne des réflexions qu'on a sur qu'on voit à travers les entreprises et les pays. Donc par exemple en Chine, du fait de cette très forte industrialisation, ils ont un taux de chômage qui a énormément augmenté. Voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution à ce niveau-là. Après, est-ce qu'on peut faire, quand on s'appelle nous, l'économie d'augmenter notre productivité? Je pense que ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'on arrive à intégrer ces technologies-là. Ensuite, honnêtement, 4 milliards, je crois que c'était 4 milliards qu'avait parlé Elon Musk de robots humanoïdes. Il y a un moment où on va taper dans des ressources. Qui sont l'accès au lithium pour les batteries, l'accès aux matériaux rares. Est-ce que c'est ça qu'on
a envie de faire? Il ira forer ça sur d'autres planètes, Elon Musk.
Les data centers.
je me projette un peu, hein, mais.
Voilà, mais par contre, si on fait civilisationnel qui me préoccupe énormément, c'est qu'on voit bien qu'à ne pas le faire, on perd un intérêt stratégique. Et vu la situation géopolitique, on voit en Ukraine, à l'heure actuelle, si l'Ukraine arrive à résister à l'heure actuelle, c'est à leur capacité d'innovation, à leur capacité d'adaptation, d'accord, et d'intégration de nouvelles technologies
sur les drones,
à une très,
hein,
très grande vitesse. Voilà, notamment sur les drones, mais ils ont utilisé des AGV. Quand on voit le niveau d'adaptation, ils prennent un vieux tracteur, ils mettent une Raspberry Pi, ils font du planning. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Et donc, du coup, là, je pense que, de ce point de vue-là, avoir une souveraineté nationale, me paraît, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut qu'on arrive à maintenir au minimum une connaissance à l'intérieur des frontières européennes et nationales pour pouvoir faire face à ce type de situation.
Marine, on fera quoi quand les robots feront tout à notre place?
Oui, bah, je pense en plus cette question on se la pose déjà un petit peu quand même avec les gros modèles de langage, notamment enfin pour les métiers dits intellectuels, col blanc, où on peut leur déléguer une très grande partie de ce qu'on fait si on décide qu'on met moins de qualité, mais on voit ce que ça peut nous enlever aussi le plaisir de faire les choses. Donc si on délègue ensuite toutes les tâches plus physiques, effectivement je pense que cette question peut se poser. Puis je me pose aussi la question de la confiance qu'on peut donner à ces robots. Je trouve que c'est même là, s'ils sont pas encore très au point, notamment sur la compréhension du monde physique, on le voit, donc c'est déplacé par exemple dans les allées de ce salon. On voit des vidéos virales par exemple d'un défilé en Chine où un robot a frappé un robot humanoïde a frappé un petit garçon. La question c'est pas est-ce que le robot a pété les plombs, mais pourquoi est-ce qu'on lui a donné en fait cette liberté là d'être près d'enfants, etc. On leur fait en fait déjà, je trouve, beaucoup confiance, alors que technologiquement on n'y est pas encore.
Alors sans vouloir finir sur une note trop négative quand même, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais je peux pas. Non, mais c'est intéressant parce que je voulais en venir à ça aussi. On peut pas éluder cette question, et j'en profite d'avoir un chercheur en robotique. Est-ce qu'on peut complètement éluder le fantasme Terminator, c'est-à-dire l'idée du robot qui à un moment se retournerait contre nous, ou vraiment il y aurait un truc complètement fou qui se produirait de ce domaine-là? Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se posent la question. Est-ce que c'est une peur qui est complètement infondée, ou est-ce qu'il y a un risque à un moment?
Alors là, à l'heure actuelle, non. Vous lui donnez un grand coup de pelle derrière la tête au niveau de la CPU, à mon avis c'est réglé, hein. Il y a pas de...
Merci du conseil.
Voilà, il y a pas de...
On note.
Il n'y a pas de souci. Après, pour être tout à fait honnête, moi, les Cloud AI, la partie agentique où le système il est capable de s'auto-améliorer, c'est quand même extrêmement impressionnant. Alors, je pense qu'on aura peut-être d'autres problèmes à régler avant.
Ok.
Ça arrive.
Bon, il me rassure pas complètement quand même, Olivier, parce qu'il dit pas complètement non. Puis c'est celui qui est peut-être le plus pertinent pour parler de ça, lui qui est vraiment complètement dans la recherche et dans les algos. Stéphane?
Non, bah, je pense que pour rester sur une note positive,
oui,
on a énormément d'utilité pour ces robots aujourd'hui. On le voit par exemple dans le domaine de l'hôpital, les aides-soignantes qui sont débordées, qui ont besoin de ressources, où là les robots vont vraiment apporter de l'aide pour de la présence avec les personnes âgées, auprès des pompiers, dans des métiers extrêmement pénibles. Je parlais de la logistique. Donc avant qu'ils arrivent à nous remplacer, on a énormément d'utilité à avoir de ces robots dans notre quotidien pour améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de personnes.
Ouais, l'accompagnement des personnes âgées, hein, c'est un point hyper important. Hein, Olivier.
C'est notre choix, c'est un choix social, donc c'est un choix collectif. Donc, vraiment, là, c'est un outil qu'on développe. Et nous, on aide les entreprises françaises comme Kangaroo, là, avec Pal Robotics, pour... et eux, par exemple, ils ont fait le choix social de ne pas travailler pour l'armée et pour aider l'industrie.
Parfait, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup Marine. Merci Stéphane. Merci Olivier. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre écoute de ces experts de l'IA, émission spéciale depuis VivaTech. Évidemment, lundi, vous retrouvez Raphaël Legendre pour les experts en format classique. Merci de nous avoir suivis et restez sur BFM Business. À tout de suite.